territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y a aujourd'hui 150 ans exactement qu'eut lieu la séance royale.
Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, 14 juillet 1937.
Ce jour-là, le roi Louis XVI, admettant les principes du régime constitutionnel et les droits essentiels de l'homme et du citoyen réclamés par les trois ordres sans distinction, reconnut que la révolution de la liberté était vraiment nationale. Mais en se prononçant pour le maintien des privilèges et des prérogatives de l'aristocratie, il marqua l'objet propre de la révolution de 1789, qui fut celle de l'égalité dans la liberté.
Devenait une icône républicaine. Ce qui avait été assassiné le 20 juin 1944, et ça je crois que c'est vrai, les miliciens qui l'ont assassiné savaient que tout était perdu pour eux, mais ils savaient aussi que cet homme contribuerait à la restauration de la République. Et ce qu'il tue en Jean Zay, c'est la République dont ils ne veulent pas qu'elle renaisse. Parce que dans Souvenir et solitude, cette réflexion que mène Jean Zay, c'est comment faire une République plus forte et plus juste. C'est ça qu'on assassine. Le travail de la mémoire. On dit souvent devoir de mémoire, j'aime pas cette expression. La mémoire, c'est un travail de mémoire et devoir d'histoire. Je pense que les historiens, je parle des historiens français, ils se sont mis au travail, au fond, sur ces questions-là, tardivement.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans le troisième épisode de cette rapide histoire de Jean Zay, héros de la République qui a seulement 32 ans en 1936, devient l'extraordinaire ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du gouvernement de Front populaire et à qui l'on doit toujours une impressionnante liste de réalisations égalitaires et républicaines. On le dit une fois de plus, l'héritage que Jean Zay nous a légué est énorme. Prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans, 3 degrés d'enseignement, unification des programmes, classes d'orientation, activités dirigées, enseignement interdisciplinaire, reconnaissance de l'apprentissage, sport à l'école, œuvre universitaire, les bibliobus et même un projet d'ENA ouvert aux enfants du peuple. Et en tant que ministre des Beaux-Arts, Jean Zay nous a légué CNRS, Musée National des Arts et Traditions Populaires, Musée d'Art Moderne, Palais de la Découverte, la Réunion des Théâtres Lyriques et Nationaux, le Festival de Cannes, et une cohorte de mesures de protection des créateurs de culture, cinéma, théâtre, édition, etc. Au-delà de ce révolutionnaire héritage social, pédagogique et culturel, la figure de Jean Zay est aussi celle d'un courageux républicain, l'un des trop rares et tout premiers résistants aux barbaries fascistes. Pour poursuivre cette évocation de Jean Zay, vous êtes aujourd'hui à nouveau avec l'une de ses deux filles, Hélène Moucharzet. Bonjour madame.
Bonjour.
Cette émission s'ouvre sur le thème de l'école. L'école républicaine selon le gouvernement de Front populaire de 1936, contre l'école du culte du maréchal Pétain selon le régime fasciste de Vichy. Comme si Pétain avait engagé un duel contre Jean Zay. À la vraie gauche, Jean Zay, jeune et brillantissime ministre de l'Éducation qui, bien qu'encarté au Parti radical, est un authentique serviteur du peuple et des idéaux de la gauche républicaine. À l'extrême droite, Philippe Pétain, instrument du complot des milieux d'affaires français qui ont tout fait pour que les nazis envahissent la France sans trop de peine.
J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
C'est à ses enfants, à leurs frères, aux petits-enfants des écoles de France, que le maréchal qui voit en eux l'espoir du pays est venu parler simplement comme il sait le faire dans la modeste école d'un village de l'Allier.
Et bien maintenant vous allez vous asseoir.
Pétain.
Il ne faut pas que vous l'écoutiez debout.
Rentrée scolaire de 1940.
Jeunes élèves des écoles de France, si j'ai désiré vous parler aujourd'hui, au moment où vous recommencez une année scolaire, c'est qu'il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France. Bon travail, bon courage et bon résultat.
Pétain Pétain, comme nombre de chefs d'État totalitaires, a bien compris l'importance du contrôle des esprits, notamment les esprits des jeunes générations, contrôle par l'école, qui pour Vichy n'est plus un lieu où l'on éclaire le citoyen, mais où l'on asservit à la propagande antirépublicaine et au culte du chef. Comme par exemple dans l'Espagne fasciste que Pétain admira beaucoup quand il était ambassadeur auprès du dictateur Franco. Or, comme la plupart des gens de sa caste de bourgeois et de nobles anti-républicains, Pétain est depuis des décennies obsédé par l'école. Surtout depuis qu'elle est infestée par ces instituteurs rouges et républicains, épouvantables hussards noirs dont l'efficacité et l'engagement auprès des enfants du peuple en font de redoutables ennemis qui chaque jour renforcent la gueuse, cette république honnie par une grande partie des droites françaises de l'époque, qui entre autres choses n'ont pas digéré la séparation de l'Église et de l'État de 1905 par exemple. Droite des 200 familles qui en 1936 prônaient plutôt Hitler que le Front populaire, qui d'ailleurs firent tout pour tenir parole.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Ajoutez que le fait que Jean Zay, bien que non israélite, était accusé de l'être parce qu'il avait des ancêtres juifs du côté de son père.
Je t'ai gardé dans mon cœur.
De plus, très préoccupé par le culte de sa propre image et jaloux de la popularité de Jean Zay chez nombre d'enseignants, on peut se demander si Pétain ne voyait pas en Jean Zay un ennemi personnel.
C'est également au profit du Secours National, pour lutter contre la misère, que sont vendus actuellement les portraits du maréchal.
Donnez-moi les photos.
Donnez-moi le maréchal. Je crois que la plus belle,
c'est celle où vous êtes en uniforme, avec votre képi. C'est celle qui est le plus aimée et qui caractérise le mieux votre expression à la fois de bonté et de fermeté.
Oui, et puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra.
Après avoir visité l'exposition scolaire, le chef de l'État s'adresse en termes émouvants aux instituteurs qui représentent ici les écoles de tous les coins de France.
Messieurs les instituteurs, vous et moi, nous travaillons à la même cause. La France vous parle par toutes ses voix. Écoutez-les bien et vous direz ensuite aux petits Français ce qu'il faut leur dire.
Jean Zay ne fut-il pas une obsession de Pétain ? Toutes les mesures et réformes de Jean Zay ayant été de réels succès, qui ont d'ailleurs été poursuivies après la guerre, Jean Zay fut, chose rarissime, un ministre de l'éducation nationale apprécié des professeurs, notamment chez nombre de jeunes professeurs qui lui devaient beaucoup. Alors qui semblait mieux représenter la jeunesse ? Le ministre républicain d'une trentaine d'années ou la momie vivante du maréchal fasciste ?
Oui, puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra.
Jean Zay représentait absolument tout ce que Vichy détestait. C'était une cible privilégiée, d'abord, oui, ministre du Front populaire et ministre de l'Éducation nationale, un secteur dont Pétain reconnaît l'importance pour endoctriner la jeunesse. Il était d'origine juive, bien évidemment, franc-maçon, partisan de la résistance la plus forte à Hitler, anti-Minuquois, etc. Et en plus, je crois que je vous avais raconté deux épisodes un peu personnels pour lesquels Vichy devait lui en vouloir. Un épisode en 1933, Pétain vient à Orléans. Il vient à Orléans inspecter les installations de défense passive et le préfet est avec lui et le député. Il y a une réunion à la préfecture. Le préfet dit à Pétain, voilà, il y aura le député. Et Pétain dit, mais que vient faire le député dans cette affaire-là ? À ce moment-là, mon père entend cette phrase, il prend son chapeau et il sort de la salle.
Ce que Pétain vient de dire, c'est, mais que vient faire un représentant du peuple et de la voilà. République ?
Et donc, Jean Zay s'en va. Le préfet lui court après, affolé, monsieur le député, mais pourquoi vous partez, etc. Bref, il s'en va et le lendemain, il dépose une question orale au chef du gouvernement, qui est très embêté, évidemment. Donc, ça a été sans doute une première cause. Une autre cause, sans doute, est que, comme vous savez, Pétain a été nommé ambassadeur d'Espagne.
Auprès de Franco.
Et Jean Zay a été très hostile à cette nomination. Alors, disons que c'est deux raisons personnelles, mais les raisons politiques ont certainement joué. Donc, en effet, je crois que c'était une cible très, très privilégiée. Et c'est pas par hasard que Jean Zay a été une des premières victimes politiques de Vichy. Son procès, 4 octobre 40. Alors moi, quand on me parle du premier Vichy qui serait un peu cool, etc., et qui se serait durci à partir de 43-44, franchement, Vichy, il est tout entier là, dès les premiers mois de son arrivée au pouvoir, avec toute l'idéologie et tout ce qu'il porte, avec, évidemment, pas tout seul, mais avec les gens d'extrême droite qui l'entourent.
Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française.
Quel est cet affreux bipède, au nez super aquilin, à l'expression vile et laide, à la lippe zinzolin, Saliupin.
Radio Paris.
C'est toujours le Saliupin. Oui, c'est extrêmement simple, vous n'avez qu'à reprendre avec nous en chœur. Saliupin, Saliupin, c'est toujours le Saliupin.
Le maréchal, à plusieurs reprises déjà, vous a dit ce qu'il entendait par sa révolution sociale.
Georges Lamiran,
il avait le sentiment profond,
secrétaire d'État à la jeunesse du gouvernement de Vichy,
que nous vivions dans un régime social injuste, dans lequel il y avait trop de misère, oui, et trop d'injustice. Eh bien, c'est ce monde que le maréchal veut changer. Il a la volonté farouche d'apporter plus de bonheur en France, en demandant à chacun de participer à cet effort commun. Voilà, chers jeunes, d'abord la révolution sociale du maréchal.
On me demande quelquefois, mais vous êtes socialiste? Moi, socialiste, jamais de la vie. Je suis social, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand on est humain, on est social. Je suis bon pour tout le monde. Je cherche à rendre des services partout où j'en ai l'occasion, mais je n'ai pas de système spécial pour rendre ces services. Par conséquent, je suis social, je ne suis pas socialiste.
Les fascistes s'obligent à ancrer leur discours dans du social. On le voit encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, absolument. Un discours social, mais toujours accompagné de nationalisme. Et on n'est pas loin du national-socialisme.
Dans nazi, il y a national et socialisme. Ce socialisme, il ne vient pas de n'importe où. Donc ces idées, ces pratiques, ces innovations, elles sont pillées souvent par les gens de l'extrême droite. Ça se voit dans Souvenirs et solitude. Jean Zay raconte une anecdote. Le maréchal Pétain, donc sous l'occupation déjà, aperçoit des enfants avec leur instituteur dans un pré.
Il est en voiture dans la campagne et il voit dans un champ des enfants qui sont avec leur instituteur. Il fait arrêter sa voiture et il va féliciter l'instituteur en disant « mais c'est formidable ».
Vous faites des leçons de choses aux petits-enfants au sujet de cette terre qui ne ment pas.
Vraiment très très bien. Mon père ajoute dans Souvenirs et solitude avec humour, ce que le maréchal ne sait pas, c'est que l'instituteur applique les instructions de 1938 que j'ai moi-même éditées. Donc il y a des choses en effet que le régime de Pétain a gardées, d'abord parce que c'était peut-être difficile depuis, par manque de temps, et puis parce que ça marchait bien d'une certaine façon.
Jean Zay, Souvenirs et solitude, 14 mars 1942. En 1936, il parut tout d'abord essentiel de rendre à l'enseignement secondaire son caractère d'enseignement de culture, compromis par les classes pléthoriques. Quand un professeur s'adresse à 50 ou 60 élèves, il ne donne plus de leçons. Il fait un cours dont profite qui peut. L'enseignement du maître auquel deviennent impossibles les contacts personnels avec chaque élève perd une grande partie de son efficacité. Je fixais par circulaire à 35 élèves l'effectif maximum de chaque classe. Un chiffre plus bas encore eût même été souhaitable, mais cette première étape rencontra déjà bien des obstacles. Le mal était si profond que pour appliquer la nouvelle règle, il fallut dans le budget de 1937 créer 1200 chaires et dépenser 35 millions. La mesure eut un corollaire heureux, par là même elle procura des situations à un grand nombre de jeunes licenciés sans emploi. Les listes d'agrégation furent sensiblement étendues. Mais les besoins étaient tels que nous dûmes souvent faire appel à des délégués encore peu expérimentés. Autant que les classes trop peuplées, les méfaits du surmenage scolaire étaient un sujet classique de récrimination dans la presse et les congrès de parents d'élèves. Le fameux surmenage a un côté légendaire.
Il résulte beaucoup plus en réalité là où il se produit d'une pédagogie défectueuse ou de mauvaises méthodes de travail chez les enfants que de l'excès des programmes eux-mêmes. Les maîtres savent que lorsqu'on veut surcharger le cerveau d'un enfant, il élimine de lui-même une partie des matières exigées. Le mal est justement qu'il opère par instinct, sans discernement. Il n'en était pas moins certain que l'allègement des programmes s'imposait. Tout le monde le réclamait. Dans le domaine proprement pédagogique, l'organisation des loisirs ou activités dirigées constituait la principale nouveauté. Le samedi après-midi fut réservé à une classe dans laquelle il serait fait appel de 100 manières à l'activité spontanée de l'élève. Il s'agissait d'éveiller ses aptitudes ou ses dons, de favoriser ses goûts les plus sains, de le préparer à la vie, bref, de rendre l'enseignement plus vivant. Faites constamment appel à l'activité de l'enfant en accordant quelque confiance à sa liberté, précisaient les instructions de 1938. L'imagination des maîtres, jointe à celle des élèves, aboutit dans une atmosphère joyeuse et souvent enthousiaste à des résultats étonnants. On le vit bien lorsqu'en fin d'année furent organisées de petites expositions des loisirs dirigés, menus travaux manuels, herbiers, journaux de classe, dessins et chants chorales, représentations de pièces classiques, coutures, collections historiques ou minéralogiques. 1000 manifestations ingénieuses montrèrent quels enrichissements scolaires pouvaient être attendus de ces méthodes hardies. Ce fut dans nos établissements une fenêtre largement ouverte, un appel d'air, un renouvellement si évident qu'il échappa presque à la critique. Il n'est pas interdit de penser que des vocations durent au samedi après-midi de loisirs dirigés l'occasion de se révéler. Si le devoir de l'université est d'instruire, il est en même temps de veiller à la santé des enfants qui lui sont confiés. Un décret-loi créa la médecine préventive, l'examen médical obligatoire des élèves et bientôt des étudiants. L'éducation physique devenue obligatoire, la demi-journée de plein air allait être de règle dans tous les établissements. L'effort sportif dans l'enseignement fut facilité en 1937 par le rattachement du sous-secrétariat d'État de l'éducation physique et des sports au ministère de l'Éducation nationale. À la veille de la guerre, était signé un protocole général des sports qui avait réussi à mettre d'accord toutes les fédérations et dont les événements seuls ajournèrent l'entrée en vigueur. On encouragea le scoutisme, notamment par un patronage officiel aux éclaireurs de France, et la réception de Baden-Powell, le populaire Bipi, donna lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à une réception aussi officielle que chaleureuse.
À Paris, M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, préside la fête de la jeunesse, organisée dans le jardin d'acclimatation par les éclaireurs de France. C'est une joyeuse et pittoresque démonstration des aspects du scoutisme et de la vie en plein air.
Les auberges de la jeunesse, largement développées par Léo Lagrange, prirent leur étonnant essor. En même temps, dans le cadre, hélas, étriqué des crédits budgétaires, on construisait des stades et des piscines. La politique, ce n'était pas elle qui inspirait l'effort de réforme, uniquement dicté par des nécessités évidentes et qui n'ont pas cessé de s'imposer. Mais ce fut elle qui chercha à l'entraver, à le suspecter, à le discréditer. Des polémiques tendancieuses ou haineuses, l'avenir ne laissera rien subsister. Il ne fera pas disparaître les besoins auxquels on voulut répondre dans un travail de bonne foi qui dura 40 mois au milieu des tempêtes du monde extérieur. Et quand ces tempêtes qui durent encore sans cesse plus dramatiques se seront enfin apaisées, la grande œuvre universitaire leur survivra, oublieuse des hommes et de leurs passions éphémères.
Le maréchal Pétain, le chef de l'État, est venu ici visiter les différentes organisations de la jeunesse, de ces jeunes que leur chef a souhaité forts, sains de corps et d'esprit, préparés aux tâches qui élèveront leurs âmes de Français et de Françaises.
Je reviens au travail remarquable que Jean Zay et son sous-secrétaire d'État au sport, Léo Lagrange, réalisent avec ces auberges de jeunesse qui, en 1936, sont en train de vivoter. Le réseau existe déjà, mais... c'est le gouvernement de Front Populaire et sous l'impulsion de Zay et de Lagrange, ces réseaux d'auberges de jeunesse, on n'y fait pas que dormir, il y a de la culture, il y a du théâtre.
Ça a une importance sociale importante de réunir les jeunes, enfin de fondre aussi les différentes classes, enfin, etc. Oui. D'ailleurs, juste un mot à propos d'auberges. J'ai appris très récemment, il y a 2 ou 3 jours, que l'auberge de jeunesse d'Orléans avait été inaugurée en 1938 par Jean Zay. C'est assez émouvant parce qu'il se trouve que moi-même... Dans les années 95, années 2000, je me suis beaucoup occupée de l'auberge jeunesse puisque j'étais adjointe au maire d'Orléans, à la jeunesse en particulier. Alors cette auberge jeunesse était installée Faubourg-Madeleine. Vous vous rendez compte, elle datait de 1938, donc avec des installations qui étaient en 1995 complètement insuffisantes et vétustes, etc. Et j'avais fait transférer cette auberge jeunesse à la Motte Sanguin.
Au cours d'une tournée, le secrétaire général à la jeunesse, M. Georges Lamirand, a visité le camp de la Valette qui forme une partie des chefs des futurs chantiers où s'élabore l'esprit des hommes de demain. Il a pu voir ces groupes de jeunes hommes réunis par un même idéal et qui mènent une vie grande et simple dans un contact continu avec la nature, le travail, la simplicité, ces bases élémentaires de ce qui doit refaire le pays.
Les jeunes, après moi, vive la France ! Et vive le maréchal !
En prenant le pouvoir, Vichy récupère aussi ces outils et ces choses qui ont été installées par le Front Populaire, mais pour les détourner dans sa propagande nationaliste, etc. Et je pensais très précisément au chantier de jeunesse. Dans cette idée d'encadrement des gens et de la jeunesse, Vichy fait glisser les auberges de jeunesse vers les chantiers de jeunesse, former la jeunesse, des pratiques saines, un peu comme les copains nazis. Ça va se retourner contre eux parce qu'on sait que ces chantiers de jeunesse vont aussi produire beaucoup d'embryons de maquis et qu'il y a beaucoup de résistants qui vont en sortir aussi.
Oui, ça a rapidement dérapé. C'est vrai qu'au début, il y a même des gens qui n'étaient pas favorables à Pétain. Certains ont été un peu séduits par cette idée-là des chantiers de jeunesse parce que justement, il y avait cette idée de former et que la jeunesse était une priorité. Donc. Et puis, très rapidement, ils se sont rendus compte de cette dérive, peu à peu, et en particulier sur la question du sport. Hein. À nouveau, avec Vichy, le sport bascule du côté de l'embrigadement, disons, le formatage des jeunes.
La préparation à l'armée.
Et oui, dans un contexte militaire.
Méthode qui s'appuie sur le perfectionnement des familles de mouvements naturels que procède la méthode d'entraînement général. Première famille, la marche.
Pour le Front Populaire et pour Jean Zay en particulier, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le sport doit être intégré à l'école et devient un support éducatif qui vise à former le jeune, mais dans des valeurs de solidarité, de respect des règles, enfin, etc. C'est deux conceptions du sport totalement opposées. Et on voit comment, avec Vichy, au départ, en effet, mais comme sur beaucoup d'autres sujets, Vichy a pu faire illusion. Et cette illusion, évidemment, n'a pas duré, en particulier à partir de 1942, je crois.
Monsieur Lamirand, ministre de la Jeunesse, va prendre la parole.
Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la révolution nationale. Une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Pour réaliser cette œuvre, il faut un enthousiasme et une pureté de cœur qu'on trouve essentiellement chez les jeunes. Les jeunes seront donc les principaux artisans de la révolution nationale. Cette révolution se fera sur le plan social. Les jeunes assureront à la France, dans la construction de l'Europe nouvelle, la place qui revient à son génie propre et à sa force retrouvée. Ils sauront renoncer, se sacrifier. Cette révolution, par eux, s'accomplira dans l'enthousiasme et dans la joie.
Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nous autres bons garçons pour aller au bout de la terre.
Jean Zay, Souvenirs et solitude, 29 octobre 1942. À propos des réformes qu'il insuffle en tant que ministre de l'Éducation nationale entre 1936 et 1939. En dehors des mesures prises directement en sa faveur, et parmi lesquelles figurèrent les bourses d'enseignement supérieur plus que doublées et le rétablissement de la maîtrise d'internat, la jeunesse intellectuelle française bénéficia des réformes scolaires générales et des lois de lutte contre le chômage sous toutes ses formes. À aucune époque ne fut entrepris pour procurer des situations aux jeunes diplômés un effort plus grand que celui de 1936-1939. Il ne fut entravé parfois ou retardé que par les éternelles difficultés financières, cet obstacle irritant de l'orthodoxie budgétaire qui, pour quelques millions, dressait son mur inexorable devant les préoccupations d'avenir les plus sacrées. Cependant, par le rajeunissement des cadres et l'abaissement des limites d'âge, par la réglementation des cumuls, par le dédoublement des classes trop nombreuses, par la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans ou tout simplement l'ouverture de nouveaux établissements et les créations d'emplois qu'elles provoquèrent, ce furent plus de 10 000 postes que le ministère de l'Éducation nationale ouvrit à de jeunes activités. C'étaient là des postes qui correspondaient à leurs ambitions, à leurs études, à leur idéal de vie, à l'intérêt supérieur du pays, non des emplois de garde mobile ou de police secrète. Il n'était pas nécessaire pour sentir la nécessité de cet effort et le poursuivre de parler sans cesse de la jeunesse ni de la flagorner.
C'est aux jeunes qu'il s'adresse d'abord.
Voilà, chers jeunes.
De ces jeunes.
Les jeunes. Secrétaire général à la jeunesse.
L'organisation de la jeunesse.
Essentiellement chez les jeunes.
Les jeunes gens de 17 à 21 ans.
Les jeunes.
Peut-être la plus jeune.
Les jeunes, après moi.
Depuis 2 ans, les discours, les feuilles officielles ne palabrent que sur la jeunesse. C'est une piètre démagogie. Il s'agit en réalité de la faire parler, de l'utiliser, de la ranger dans son camp. Nous avons connu naguère ces tentatives sur le plan électoral. Elles ont pris aujourd'hui des dimensions gouvernementales. Rien n'est plus stérile, rien ne tourne davantage le dos au but qu'on dit poursuivre. À quoi bon ces ministères de la jeunesse, ces directions de la jeunesse, dont il est sans cesse question dans la bouche de personnages, généralement âgés.
Oui, puis en somme, avec mon pipi, on me reconnaîtra.
C'est aux jeunes qu'ils s'adressent d'abord, en leur rappelant que le premier devoir est d'obéir, et que pour refaire physiquement et moralement notre race, la patience est aujourd'hui la forme la plus nécessaire du courage. Les élèves se rendent régulièrement au stade en chantant, suivant les principes de la doctrine appliquée pour l'éducation physique. Pour augmenter la résistance de chacun aux intempéries, les enfants se dévêtissent dans la mesure où le permet la saison. Des vagues, constituées d'après le degré de force et d'entraînement des élèves, sont divisées en faibles, moyens et forts. Marche autour du plateau et dérouillement des muscles. Cet exercice appartient à l'une des séries que comporte la leçon.
La jeunesse ne doit pas être traitée à part dans le pays par des organismes et des bureaux spéciaux. Ce serait bientôt l'isoler. Elle fait partie intégrante de la nation. Elle doit représenter une pensée constante, sans cesse présente dans tous les ministères, dans toutes les mesures qu'on prend. Elle, la jeunesse, ne doit rester étrangère à aucun plan d'avenir. Elle doit inspirer et animer les grandes pensées gouvernementales. Mais elle ne demande pas à faire bande à part. Ce qu'elle réclame surtout, c'est qu'on lui fasse confiance, qu'on ne lui oppose pas la routine, la timidité, l'avarice. Elle se méfie, comme elle a raison, de ceux qui ne viennent à elle qu'avec des grands mots à la bouche, des moralistes intéressés. Servir, c'est la devise de tous ceux qui aiment à commander, écrit quelque part Giraudoux.
Français.
Le maréchal Pétain parle à la France.
1941.
Français. Vous avez vraiment la mémoire courte. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance.
Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue, maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent.
maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous jurons.
Il l'attend, il le maréchal, il le maréchal,
il le maréchal.
Après avoir en 1940 ordonné le simulacre de procès de Jean Zay, Pétain passera lui aussi devant un tribunal, mais plus tard, en 1945. Pétain d'ailleurs jugé par des magistrats dont la plupart lui avaient quelque temps plus tôt juré allégeance.
Tous les ministres et hauts fonctionnaires devront me prêter serment de fidélité.
Monsieur le maréchal, je jure fidélité à votre personne.
Serment de hauts fonctionnaires de 1942. 3 ans plus tard, procès Pétain. Pétain est inculpé de haute trahison et d'intelligence avec l'ennemi. Mais comme une armée de traîtres se cache derrière l'accusé, parmi eux d'influents industriels et banquiers, militaires et fonctionnaires, il va falloir expédier le procès et faire porter au seul maréchal la trahison des autres.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice.
Juger les traîtres détruirait le mythe gaulien d'une France résistante, dont Jean Zay a d'ailleurs été évacué. À ce procès Pétain, le chef du gouvernement de Front Populaire de 1936, Léon Blum, témoigne.
Croyez-vous que le maréchal est exercé sur l'aval de l'influence, ou que ce soit l'aval qui est exercé de l'influence sur le maréchal?
C'est encore une question bien dangereuse que vous me posez. Je connais Laval, en effet, mais je ne connais pas le maréchal. A-t-il agi par ambition? Mais oui, c'est possible, mais vous m'obligez ici à entrer sur un terrain où je n'aurais pas voulu pénétrer. Y a-t-il eu chez lui ce dessein prémédité, dans le désastre de la patrie, de trouver une occasion de pouvoir personnel que peut-être, depuis 6 ans, il m'avait attendu?
Les nazis ont envoyé Léon Blum à Buchenwald, mais pas au régime général des déportés, mais dans une prison du camp, où il est conservé comme monnaie d'échange. De 1940 à 1944, Jean Zay, lui, reste en prison à Rion, en zone sud contrôlée par Vichy. Bien que sa détention soit extrêmement éprouvante, pendant environ 3 ans, il n'est pas soumis à l'effroyable régime de bagnard de certains autres prisonniers. Ancien ministre et parlementaire, il obtient par période une sorte de statut proche de celui de prisonnier politique, régime qui sera parfois très dur et qui sera épouvantablement durci à la fin. Pendant une partie de ses 4 années de détention, Jean Zay jouira donc de quelques privilèges, comme d'obtenir certains livres et journaux, pouvoir écrire ou fumer, et à certaines périodes recevoir sa femme et ses 2 petites filles en cellule. Mais selon les normes d'aujourd'hui, la détention de Jean Zay nous apparaîtrait épouvantable. On sait que le régime fasciste de Vichy ne s'embarrassait pas pour assassiner et faire disparaître les gens. Or, Blum et Zay étaient trop connus pour qu'on les fasse disparaître comme ça. Et l'on pourrait imaginer que, cherchant à ne pas trop se discréditer aux yeux de l'opinion publique, Vichy tente de se donner des allures d'État qui a encore des lois, et donc ne tue pas les gens n'importe comment. Alors Hélène Moucharzé, pour tenter d'apparaître comme un régime légitime, Vichy ne doit-il pas essayer un minimum de simuler un semblant de justice, même si ce n'est qu'une sinistre mascarade jouée d'avance?
Le procès du 4 août 40 est absolument plus que scandaleux par sa forme. Vichy voulait obtenir la condamnation à mort, il voulait le faire fusiller. Au départ, il est l'objet d'une double inculpation, d'abandon de poste et de désertion. Si je puis dire, le crime d'abandon de poste est puni de mort. Donc on l'inculpe d'abandon de poste. Et c'est là où Antoine Prost dit qu'il est convaincu que Pétain voulait le faire condamner à mort comme De Gaulle. De Gaulle vient d'être condamné à mort par exactement le même tribunal militaire que celui qui juge, entre guillemets, Jean Zay. ils sont obligés d'abandonner cette inculpation parce que franchement, elle ne tient pas. Quoi. Et même avec la mauvaise foi la plus grande du monde, ils n'y arrivent pas. Ils maintiennent quand même la désertion en ajoutant devant l'ennemi. Je pense que Jean Zay intéressait davantage Vichy que les Allemands. La preuve, c'est que toute la persécution de Jean Zay vient de Vichy. Alors évidemment, on a retrouvé des articles, évidemment, pour les Allemands, c'était un juif, etc. Donc. Mais quant à Blum, je crois que, en particulier son transfert à Buchenwald, donc le protégeant d'une certaine façon, paradoxalement, hein, Vichy voulait se servir de Blum comme d'un otage. Dans l'esprit de Vichy, c'est une monnaie d'échange avec les futurs vainqueurs. Enfin bon, c'est-à-dire ils le mettent finalement à l'abri. Mais ça n'a pas été le cas de Jean Zay, parce qu'en maintenant Jean Zay en prison pendant toutes ces années, et avec ses attaques perpétuelles dans la presse d'extrême droite, qui le désigne comme anti-munichois, parce que c'est ça ce qui est publié, ses notes après le Conseil des ministres, c'est franchement le désigner au bras des assassins. Puis ensuite, Vichy l'a évidemment livré à la milice. Donc je crois que le sort de Jean Zay de Blum n'est pas le même. Moi, je suis convaincue que ce qui a sauvé Blum, c'est qu'il n'était pas militaire. Au fond, ce qui a permis à Vichy d'attaquer Jean Zay comme Mendès France, c'est qu'ils se sont engagés dans l'armée. Ce qui a donné la possibilité à Vichy de les accuser de désertion. Ils n'avaient pas ce motif-là avec Blum. Et donc, il a fallu qu'ils mettent en place tout ce procès de Rion qui a tourné à la déconfiture de Vichy. Je crois que Jean Zay était, parce que ministre de l'Éducation nationale, pour les antisémites, c'est vraiment la pire des choses. Le juif qui s'occupe d'éducation, c'est vraiment le pire des juifs. Le juif assimilé, puisque la famille côté de mon père était de ces Français juifs complètement assimilés et qui n'avaient plus de pratiques religieuses, et qui s'occupe d'éducation, c'est vraiment les pires. C'est des juifs qui sont devenus invisibles dans la population française, qui se sont complètement fondus, donc qui sont d'autant plus dangereux, parce qu'ils restent toujours juifs.
Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Oh, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue.
Je crois vous avoir cité la phrase de Rebatté disant que Jean Zay soit protestant, musulman, bouddhiste, catholique, mais il est toujours juif. Hein. C'est-à-dire, c'est par essence, c'est par race.
Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres.
Donc, le juif le plus assimilé, c'est toujours le juif le plus dangereux. Il est invisible et qui se dissimule. Et en plus, éducation nationale, il pervertit nos enfants. Moi, je pense toujours, je vous l'ai dit, à Socrate. Il a été condamné à mort parce que, quod corromperet, etc., iuventutem, parce qu'il corrompait la jeunesse.
À Paris, au palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France.
1941.
Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs.
De 40 à 43, sur une période qui couvre largement ces 4 années d'emprisonnement de 40 à 44, Jean Zay va écrire un journal intitulé « Souvenirs et solitude ». Il est contraint d'en abandonner la rédaction en octobre 43 quand son régime d'incarcération est encore durci. Dans ce journal, rédigé d'une plume élégante, fluide et très agréable à lire, on découvre un humaniste sincère, profondément engagé et doté d'un très solide sens de l'humour car il se montre parfois drôle ou amusé. Jean Zay consigne également de riches et profondes observations et réflexions sur le présent de la prison. Il évoque et espère aussi l'avenir, ce qu'il faudra poursuivre à la reconstruction, et il rapporte ses expériences, réformes, ambitions pour le peuple en tant que ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts de la République.
Il y a quelque chose qui est très présent aussi dans Souvenirs et solitude. Enfin, certains historiens disent qu'il a inventé la diplomatie culturelle, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de voyages hein, en si peu de temps. En plus, en tant que ministre de la Culture, là, autant qu'Éducation nationale, il est allé dans beaucoup de pays. C'est très nouveau aussi, ça. Par exemple, il va en Grèce à un moment, c'était sous le dictateur Metaxas. Sa venue va être l'occasion pour l'opposition, en particulier des jeunes étudiants, de se manifester contre le dictateur. Et il va aux États-Unis, il va en URSS, etc. Et c'est une part très importante, je crois, qu'il aurait développée aussi et qui fait partie de cette réflexion, ce qu'il faudrait développer dans ce sens-là. Enfin, bon, c'est un livre qui donne tellement de pistes, mais je crois que c'est étudié dans les grandes écoles aussi, en particulier à l'ENA. Vous savez qu'il y a une promotion de l'ENA qui a pris le nom de Janzet, il y a quelques années.
Ce qui est formidable, c'est qu'il est accessible à tous. Ce livre, on peut le mettre entre les mains de quelqu'un qui a 15 ans, il y trouvera son compte. Hein.
Compris très jeune, vous savez qu'il y a quelques années, il y a une association qui s'appelle l'Association des Amis de Janzet qui a lancé un concours dans les écoles primaires. Et ce concours, c'était une lecture des textes de Souvenirs et Servitudes. Seulement une lecture, pas de commentaires. Et donc, les écoles ont envoyé des cassettes où on entendait les enfants lire et on voyait à quel point ils comprenaient ces textes-là.
Janzet, 5 mars 1942, au sujet de sa visite en Grèce de 1937. La venue d'un membre du gouvernement porté au pouvoir en France par les partis populaires polarisa toutes les passions contenues qui frémissaient dans l'âme grecque. En raison même de ses hardiesses politiques stigmatisées dans la presse de Berlin et de Rome, la France était plus que jamais à Athènes le symbole de la liberté. Les milieux populaires et intellectuels, les cercles de la jeunesse universitaire trouvèrent dans la visite d'une délégation française l'occasion de manifester à la fois leur attachement à la France et leur fidélité aux idées démocratiques. À mon arrivée, je fus accueilli par une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes qui s'étaient glissés aux côtés du ministre de France pour me remettre des bouquets tricolores. Mais j'appris quelques jours plus tard qu'en réalité plus de 2000 étudiants s'étaient donné rendez-vous à l'aérodrome et avaient été dispersés sans douceur par la police qui n'en toléra qu'une poignée. Les efforts officiels pour modérer l'enthousiasme ou en diminuer le sens devaient être vains. À chaque instant, pendant ces 3 semaines, les manifestations populaires se répétèrent. La foule s'amassait sur notre passage et criait « Vive la République !» puis reprenait haleine et, malicieusement, achevait, après un temps, « Française !» Cette affection pour la France animait les plus petites gens comme l'élite intellectuelle, les boutiquiers et les camelots comme les savants et les écrivains. Plus tard, en 1943, à propos de son voyage en Égypte, Janzet écrit « Dans les temps nouveaux où la suprématie française devra se réduire à celle de l'intelligence et de l'art, c'est-à-dire à la meilleure part, il faudra sillonner le monde de ses expositions, de ses troupes théâtrales, de ses conférenciers choisis, qui nous représentent mieux que bien des diplomates et qui, en tout cas, pourront seuls maintenir notre prestige. Il en coûtera moins que de ravitailler des alliés incertains en canons et en mitrailleuses. Il en sera tiré plus de bénéfices. J'ai vu maintes fois quelles traces profondes laissaient derrière elles semblables manifestations. On en parle des années plus tard. Elles réconfortent et stimulent nos amitiés éloignées. »
En lisant le titre, Souvenirs et solitudes, Souvenirs, c'est en effet le retour sur le passé, puis une réflexion. C'est pas seulement qu'il raconte, c'est que pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait. Et puis, il y a Solitude, c'est le présent de la prison, avec tout ce qu'il y a de douloureux, mais en même temps d'extraordinairement riche. Mais il y a aussi une troisième dimension de ce livre, c'est le futur. On l'a pas souvent souligné parce que il ne cesse de penser, je pense que ça l'a beaucoup soutenu. Ben, un jour, la France va être libérée, un jour, je serai libérée, et un jour, je reprendrai cette action en l'amplifiant. Et à ce moment-là, il faudra vraiment avoir réfléchi avant. Et il mène cette réflexion-là en prison. Comme d'ailleurs, il faut toujours rappeler que les résistants, enfin les vrais, les grands résistants, dès qu'ils ont commencé les mouvements de résistance, ils ont réfléchi à ce qu'il faudrait faire plus tard. Et ce ne sont pas lancé tête baissée dans la résistance, mais ils ont réfléchi. Et lui, constamment, il y a cette idée qui est lancinante. Qu'est-ce qui a fait que, ben, il y a eu cette catastrophe de juin 40, en particulier l'effondrement de cette République, Par exemple, on a mal formé les fonctionnaires, d'où l'idée de l'ENA, il y a un très beau passage, comme dans Marc Bloch, hein, L'étrange fête. Mais il y a aussi des réflexions étonnamment actuelles, vous en avez cité sur les médias, on pourrait les sortir maintenant, sur, par exemple, ce qu'il appelle la tyrannie budgétaire, comme quoi, à chaque fois qu'il a voulu engager une réforme, il a dû aller se bagarrer avec les financiers. Et puis, sur l'éducation aussi. Et il y a un magnifique passage, enfin, que moi, je cite souvent parce qu'il est totalement actuel. La façon d'éduquer qu'on avait sous le Front populaire, on voulait forger des esprits libres. On voulait surtout pas influencer ces esprits, mais donner aux jeunes les moyens, l'esprit critique, etc. Mais est-ce qu'on les a assez armés pour résister à toutes les propagandes? La réponse est on a peut-être été trop libéraux, mais au sens politique du mot. C'est un combat intellectuel. Il faut armer les jeunes pour ce combat intellectuel. C'est des thèmes guerriers, c'est sûr, mais ça, c'est les outils de l'esprit, comme dit Pierre Sauvage, c'est les armes de l'esprit. Et donc, cette question-là, elle est étonnamment actuelle, parce qu'on est dans un contexte où on se pose cette question-là. Qu'est-ce qui, dans le système éducatif, qu'est-ce qu'il faut faire pour résister à ces propagandes criminelles, barbares, hein, qui valent largement ce qu'ont fait les nazis. Hein. Quand on parle de Daesh, je ne vois pas la différence entre certaines choses qu'ont fait les nazis, alors, sauf évidemment la Shoah qui a été industrialisée, mais je veux dire, dans la barbarie, ça se vaut. Les jeunes, à la fois, il faut les protéger de toutes les influences, donc c'est la laïcité, et les armer intellectuellement. Ça, c'est extraordinairement actuel. Et puis, il y a d'autres réflexions sur la Constitution. Quelle réforme constitutionnelle il faudrait... Tout ça, c'est l'avenir. C'est-à-dire, il y a les trois dimensions, le passé, le présent et l'avenir. Dans ce livre, chez un homme qui, je rappelle, a 36 ans.
Souvenirs et solitude, 2 juin 1943. Je relis nos instructions officielles, horaires et programmes de 1937-1938, qui, à la veille de la guerre, résumèrent la doctrine française de l'enseignement, celle qui inspirait alors les réformes entreprises. Ces instructions reflètent à chaque page la tradition constante de notre culture, en particulier de notre culture secondaire. Former le caractère par la discipline de l'esprit et le développement des vertus intellectuelles. Apprendre à bien conduire sa raison en élève de ces héritiers français du message socratique, Montaigne et Descartes. À garder toujours éveillé l'esprit critique, à démêler le vrai du faux, à douter sainement. À observer, à comprendre autant qu'à connaître, à librement épanouir sa personnalité. Dans le souci de former plutôt des têtes bien faites que bien pleines, d'allumer un flambeau plutôt que de remplir une coupe, les professeurs devraient se garder attentivement de tout enseignement révélé, du dogmatisme, de la vérité acquise d'avance, des jugements tout fait couler dans les jeunes cerveaux. Les élèves, disaient les instructions de 1937, devront être capables d'examiner toutes choses en les rapportant à leurs principes et de raisonner sur elles en ne faisant état que des faits bien et dûment constatés. Ils devront être exercés à observer, à mesurer, à critiquer leurs propres observations en procédant à des vérifications rigoureuses. Ils auront besoin de connaître et de comprendre le monde où ils seront appelés à vivre. Et dire qu'on nous a accusés parfois de primariser le secondaire, de compromettre la tradition humaniste. C'est bien plutôt un reproche contraire qui aurait pu nous être adressé. Fidèles à nos raisons de vivre, nos instructions se préoccupaient-elles assez de notre vie même dans le monde moderne et de l'inévitable combat qui suppose sans doute une subordination à quelque entité supérieure? Il y a dans les instructions de 1937 comme le testament d'un humanisme libéral où s'exprime, avec les mises au point exigées par les temps nouveaux, la culture traditionnelle et l'esprit même de la France, le sens de sa mission. Dans son souci d'objectivité, notre libéralisme avait la crainte des consignes rigides, la phobie du caporalisme et de la contrainte. Un pareil enseignement, écrivions-nous, en parlant de celui que nous souhaitions, ne peut qu'être foncièrement libéral. Les maîtres ne cherchent pas plus à plaquer des idées dans l'esprit qu'à y entasser un fatras de connaissances. Ils apprennent à leurs élèves à se former eux-mêmes leurs idées. Nous redoutions par-dessus tout que la politique ne s'introduisît dans la classe et les consignes données aux professeurs de français pour les exercices de conversation et de discussion précisaient À peine est-il besoin d'inviter à bannir soigneusement de ses exercices tous les sujets qui seraient de nature à troubler la sérénité indispensable aux études. Or, au moment même où, quoi qu'on en ait dit, nous nous montrions volontairement si peu jacobins, de l'autre côté de nos frontières menacées, la politique envahissait au contraire l'enseignement. Et quelle politique ! La culture passait après le parti, le credo politique chassait le libre raisonnement, traquait l'indépendance d'esprit et le fanatisme remplaçait l'examen. N'y avait-il pas un écart dangereux, trop d'inégalités entre les deux méthodes ? L'une n'avantageait-elle pas trop un camp contre l'autre, lui procurant l'éternelle supériorité matérielle de la force sur la raison ?
Unser Volk, unser Vaterland und unser Führer, heil!
Et s'il ne pouvait être question pour nous d'imiter des procédés étrangers à notre génie national, n'aurions-nous pas dû cependant mesurer davantage les nécessités de la légitime défense ? L'enseignement humaniste ne saurait se proposer de former des fanatiques et des soldats, mais non plus de se contenter de préparer pour la défense indispensable des droits de l'esprit des clercs désarmés. N'eût-il pas fallu opposer au cerveau en uniforme une moins sereine objectivité, un jacobinisme plus militant et ne pas craindre, sous couleur de libéralisme, d'animer la jeunesse à l'action en général et plus particulièrement à la lutte française pour nos libertés ? Oui, le vrai reproche auquel s'exposaient ces instructions, c'était d'être trop civilisée, trop confiante pour un monde barbare. La discipline du rationalisme, enseignée par la France au monde, mais mal entendue au-delà de ses frontières, ne donnait-elle pas chez nous à la plupart plus d'intelligence et d'esprit critique que de caractère et de volonté d'action ? Montaigne et Descartes suffisaient-ils à armer pour les luttes de la vie, en tout cas pour les inexorables champs de bataille ? Sans doute les instructions de 1937 se défendaient-elles de forger des sceptiques et des dilettantes ? Elles prescrivaient fermement au maître de veiller à ce que les élèves ne perdent jamais de vue que dans toute discussion, il faut conclure qu'après avoir pesé le pour et le contre, il faut se décider à choisir, s'engager, accepter le risque. Elle recommandait de former des esprits ayant le sens du divers et du relatif, ouverts à toutes les idées, tolérants, mais ne séparant pas l'exercice de la pensée de la nécessité d'agir. Cependant, notre tradition universitaire, les matières de notre enseignement, donnait-elle à la jeunesse française assez de doctrines offensives, assez de convictions intangibles, assez d'impératifs, assez d'armes pour affronter les dangers de l'époque, pour défendre par tous les moyens l'héritage de nos libertés ? Et ces libertés, faisions-nous suffisamment prendre conscience de leur caractère sacré, de la valeur nationale et humaine ? Sachant les enseigner, n'aurions-nous pas dû savoir aussi en imposer le respect, le service ?
Amour sacré de la patrie. Son brave vengeur en liberté, père des chéris, combat avec tes défenseurs.
Si la tradition universitaire de la France a péché par trop de libéralisme, par trop de confiance en l'homme et sa conscience, est-on coupable de trop de noblesse ? La France de demain ne saurait penser à introduire le catéchisme politique, le militantisme partisan à l'école, comme Vichy n'a pas craint de le faire à l'imitation impie de Berlin et de Rome. Mais elle devra chercher l'équilibre nécessaire entre la générosité de sa tradition culturelle et les nécessités vitales du monde moderne. Elle devra cimenter solidement un corps de doctrine française, doctrine de la liberté, de la souveraineté populaire, des devoirs librement consentis et d'autant plus fidèlement remplis, les enseigner, les imposer, enrôler à leur service, boucher les fissures par où passaient les abandons et les trahisons, ne plus souffrir qu'on transige avec l'héritage de vie, exiger qu'on le défende comme le corps et l'âme de la patrie. Voilà donc ce qu'écrit Jean Zay dans Souvenirs et Solitude le 13 juin 1943, en se souvenant des ambitions qu'il nourrissait pour l'école entre 1936 et 1939. Outre le fait que Jean Zay était bien ministre de l'Éducation nationale, et non pas l'un de ces sinistres de la destruction de l'école qui défilent au gouvernement depuis quelques décennies et toujours aujourd'hui. On notera une fois de plus qu'à l'époque, les politiques savaient parler et écrire le français, ce qui laisse quand même à penser sur le cas des cancres qui prétendent aujourd'hui nous gouverner à coups de réformes écrites en novlangue SMS.
Il y a tout ce qu'il a réalisé, mais il y a tout ce qu'il n'a pas eu le temps de réaliser, donc tous les projets...
On a perdu un grand bonhomme quand même.
C'est à moi de vous poser la question, donc bien sûr que je vais vous dire que oui, mais je pense que beaucoup l'ont dit, enfin encore une fois, que ce soit des gens comme Mendès France qui lui a eu un rôle important aussi, même s'il n'a pas pu mener non plus tout ce qu'il voulait à bout, ou bien Blum, tous ces hommes ont souligné la perte immense, parce que la 4e République naissante avait besoin, vraiment besoin d'hommes politiques d'abord qui avaient résisté, puis qui avaient réfléchi, etc. Et oui, il a beaucoup manqué. En plus, parce qu'il avait déjà été au gouvernement, qu'il avait déjà réfléchi à tous ces domaines éducation, culture, et qu'il avait plein de choses dans les cartons, comme on dit maintenant, qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir aboutir. Il pense aussi en 1939, au moment où il est obligé d'annuler le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes, dont il est le créateur, faut le rappeler.
Dont il est le créateur, et en particulier pour contrer la Mostra de Venise, qui jusque-là était le seul festival international de cinéma, et qui était totalement aux mains des régimes totalitaires, en particulier Hitler et Mussolini. Donc on ne va plus à Venise, et on crée un festival à Cannes. Donc c'est un geste politique et un geste artistique. Mais il est obligé d'annuler parce que c'est la guerre. Il dit, mais on pourra peut-être le reprendre après, pensant que peut-être la guerre serait... Et à l'espoir qu'il va reprendre ça. Hélas, à la libération, il n'est plus là. Et non seulement il n'est plus là, mais il a disparu. Et il disparaît pendant 4 ans.
Il va s'écouler plus d'un demi-siècle avant que Jean Zay, oublié de presque tous, ne reviennent dans l'histoire de France et dans les mémoires des Français. Le jeune ministre, qui, lors de son emprisonnement, inscrit son parcours à l'ombre de figures de personnages historiques, devient lui aussi un personnage historique des décennies après son assassinat. Et parmi le bataillon d'hommes célèbres évoqués ou invoqués par Jean Zay, on compte le capitaine Alfred Dreyfus, injustement accusé, condamné et déshonoré, ou Auguste Blanqui, dit « l'enfermé ».
Il avait son portrait en cellule, dans sa cellule. Et dans Souvenir à solitude, il cite très souvent Blanqui. Oui. D'ailleurs, il a pensé à un moment, on voit ça dans sa correspondance, pas au début, parce que les premiers mois d'emprisonnement, il est terrassé à la fois par ce jugement par lequel on veut non seulement l'abattre, mais le déshonorer. Et puis, il y a ce transfert à Marseille épouvantable, dans un véritable cachot. Le premier mois à Rion, où il y a une succession de catastrophes qui s'abattent sur lui. Mais... il commence à émerger, disons, au milieu de l'année 41. Et là, il a plein de projets parce que, bon, il a obtenu d'avoir des livres. Alors, quel livre ? C'est un peu du tout et n'importe quoi, mais parfois, il y a des choses qui l'intéressent. Et puis, il prend à bras-le-corps sa détention et il décide d'être actif. Et donc, il a des projets d'écriture. Et en particulier, il va projeter de rassembler, d'écrire sur les écrivains qui ont été emprisonnés. Dont Blanqui, évidemment, mais aussi Dostoïevski, Verlaine, etc. Le souvenir de Blanqui, c'est cet homme qui a passé, oui, vous disiez...
40 ans au moins.
Je ne sais pas, en prison, l'a énormément soutenu. D'ailleurs, encore une fois, il avait son portrait sur le milieu de sa cellule. Portrait que d'ailleurs, en 1944, on lui retire. On lui retire même ça, si vous voulez, au moment où la milice a pris les rênes de l'administration pénitentiaire et donc durcit beaucoup la détention de
régime qui avait déjà d'ailleurs été précédemment durci par le sinistre Bousquet, qui était chef des polices.
Oui, alors le régime a été durci à plusieurs reprises. D'abord, en novembre 1942, au moment où les Allemands envahissent la zone dite libre, pendant quelque temps, on lui supprime les visites. Bon, finalement, on va lui rétablir après, mais déjà, il y a un premier durcissement de sa détention. Ensuite, 1943, c'est l'évasion de l'âtre de Tassigny, qui s'évade avec la complicité de gardiens, prend le bas de combat, là, ça se durcit encore plus. Et puis, en 1944, évidemment, au moment où c'est Darnand qui est secrétaire d'État au maintien de l'ordre, donc qui a la main vraiment très directement sur la prison, et qui va durcir considérablement le régime de détention, c'est-à-dire que ça devient épouvantable, il ne peut plus voir personne, il voit sa famille derrière des barreaux pendant une demi-heure, c'est absolument insupportable pour lui. Puis ça va être l'ordre de Dardan, parce que l'ordre de transfert est évidemment un ordre d'assassinat le 20 juin 1944. Donc il y a une progression en effet de ce durcissement de régime. Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont il a résisté à tout ça.
Voilà les amis, c'est ici la fin de ce troisième chapitre de cette rapide histoire de Jean Zay. Grand merci à Hélène Moucharzé que vous retrouverez au prochain et dernier épisode de cette série que vous pouvez réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com. Salut.